Maëlie.
Il faut dans son maman.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Il est 5h30 en temps universel. Bonjour à toutes et à tous. Nanit Talani est à la présentation de cette édition du Monde aujourd'hui de ce mercredi 23 août 2023. Pour commencer, les titres. Élection générale au Zimbabwe pour la présidentielle. 11 candidats sont en lice, dont le sortant Emmerson Mnangagwa et l'opposant Nelson Kamisa. L'Union africaine suspend le Niger tout en se montrant réservée sur une éventuelle intervention militaire ouest-africaine. L'envoi des militaires par la CEDEAO n'est pas la bonne option, estime l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo lors d'une rencontre hier avec la presse. Plaidoirie de Joe Biden pour muscler les capacités de financement du FMI et de la Banque mondiale lors du prochain sommet du G20 en Inde. Et d'environ 10 minutes, vos rendez-vous habituels avec le sport et l'économie. En attendant, le journal. Washington demande à la République centrafricaine d'annoncer une date pour les élections locales tout en exprimant de profondes réserves concernant le référendum constitutionnel du 30 juillet dans le pays. Les États-Unis notent avec de profondes réserves les rapports faisant état d'une faible participation des électeurs et les préoccupations concernant le secret du scrutin, a déclaré hier le département d'État américain dans un communiqué. Nous appelons le gouvernement centrafricain à annoncer une date pour les élections locales où tous les centrafricains pourront exprimer leur opinion dans les urnes, ajoute le texte. Les Zimbabwéens votent ce mercredi pour élire un président, les membres du Parlement et les représentants des gouvernements locaux. Il y a 11 candidats à la présidence, mais les deux favoris sont le président sortant, Emmerson Mnangagwa, qui brigue un second mandat de 5 ans, et Nelson Kamisa, chef de la coalition des citoyens pour le changement. Mouamadou Oufa pour plus de détails.
Plongés dans une profonde crise économique, les Zimbabwéens votent dans un climat politique tendu. La campagne électorale a été marquée par des meetings interdits et des arrestations au sein de l'opposition. Human Rights Watch a prédit un processus électoral gravement défectueux, incompatible avec un vote libre ou équitable. Économie et chômage sont les principales préoccupations des électeurs selon un récent sondage. L'inflation dans ce pays agricole de plus de 15 millions d'habitants, riche en minerais, a été de 101% en juillet. Certains économistes pensent que le chiffre réel serait bien plus élevé. L'opposant Nelson Chamisa promet de bâtir un nouveau Zimbabwe pour tous, s'attaquer à la corruption, relancer l'économie, sans vraiment détailler comment, soulignent ces deux facteurs. Pour sa part, le président sortant, Emmerson Mnangagwa, a tenu à montrer qu'il tient ses promesses. Il a coupé ces dernières semaines une multitude de rubans, livrant de nouveaux camions de pompiers, inaugurant mines de charbon, centrales électriques et cliniques.
L'Union africaine a suspendu le Niger, mais s'est montrée réservée sur une éventuelle intervention militaire ouest-africaine pour rétablir le président Mohamed Bazoum en appelant à une solution diplomatique. Le point avec Michel Joseph.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de suspendre la participation de la République du Niger de toutes les activités de l'Union africaine jusqu'à rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays, selon un communiqué publié mardi. Le Conseil note de la décision de la CEDEAO de déployer une force au Niger, une option qui rend sceptique l'organisation panafricaine qui affiche clairement sa préférence pour la voie diplomatique. La CEDEAO répète sa préférence pour une solution diplomatique, mais agite la menace de l'usage de la force. La France affiche son soutien total à la CEDEAO, tandis que les États-Unis ont appelé à une résolution pacifique de la crise. En marge du sommet des BRICS, le chargé de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères chinois, Wu Peng, a affirmé que la situation au Niger doit être résolue grâce à un dialogue pacifique par le biais de la CEDEAO et de l'Union africaine.
L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a rencontré la presse hier mardi à Abidjan. Plusieurs sujets d'actualité ont fait l'objet des échanges, notamment la crise nigérienne. Pour l'ancien président, l'envoi des militaires par la CEDEAO n'est pas la bonne option. Plus de détails avec notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenyo.
Au siège de l'UNUC, quotidien du pays, difficile de se tourner les pouces. Pour la couverture des élections du 26 août, la rédaction du journal L'Union est au taquet. Une équipe de veille filtre les informations brutes venant des correspondants et des envoyés spéciaux sur le terrain. L'objectif affiché, éviter le piège des fake news tout au long d'un processus électoral qui va au-delà de l'annonce des résultats. L'ingénieur Lindembe, directeur de la rédaction de L'Union.
Nous prenons assez de recul pour appuyer, nous exploitons l'information parce qu'une lumière peut toujours apporter une information au final. Nous avons le temps de vérifier.
À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Dans quelques jours, le Gabon a rendez-vous avec son histoire. Le pays organise simultanément trois scrutins, une présidentielle, les législatives et les municipales. Un tournant inédit pour lequel la question d'accès équitable des candidats aux médias publics reste sur la table. Claudette Eworo, directrice des actualités de Radio Gabon.
Le seul problème que nous avons, parce que parfois certains candidats ne déclinent pas leur agenda, leur programme.
Ouvrir les élections de cette année au Gabon n'est cependant pas donné à tous les médias, qu'ils soient étrangers ou locaux de droit privé. Il dénonce des entraves à la liberté de la presse. L'organisation patronale des médias gabonais s'en plaint, mais sans succès. Télésphore Obama Gomo, président de l'OPAM.
Il y a comme une volonté, soit de dissimuler une vérité, il y a également à être amené à vouloir contrôler de bout en bout toute la chaîne d'information pour ne pas effectivement que tout ce qui pourrait constituer des dérapages ou des ratés ne puisse être servi à l'opinion publique.
Aux restrictions qui plombent l'exercice du métier s'ajoute aussi la précarité des professionnels des médias. Les plus vulnérables pourraient céder facilement à la corruption. Une triste réalité que déplore René-Paul Souzat, producteur télé.
Le journaliste ne peut plus servir véritablement l'information d'une manière évidente. C'est-à-dire, donc il y a l'influence, celui qui met de l'argent, il va donner une information qui est biaisée.
Et c'est de ce constat que naît le désamour entre la presse gabonaise et son public. Fulbert Mettegué est un citoyen qui a mal à ses médias.
Aujourd'hui, pour être informé sur le Gabon, on est obligé de courir aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui s'y met. Le citoyen est obligé lui-même de faire l'office.
L'impartialité du journaliste gabonais dans le traitement de l'information sera encore mise à rude épreuve. Avant, pendant et après le scrutin. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les premiers co-accusés de Donald Trump dans l'affaire criminelle de la Géorgie, accusant l'ancien président américain et ses associés d'avoir subverti sa défaite électorale de 2020, se sont rendus à la prison d'Atlanta hier mardi, selon les registres du comté et un communiqué. L'observateur républicain des sondages, Scott Hall, et l'ancien avocat de M. Trump, John Eastman, se sont tous deux rendus au bureau du shérif du comté. « Je suis ici aujourd'hui pour me rendre à un acte d'accusation qui n'aurait jamais dû être prononcé », a déclaré M. Eastman dans un communiqué. Les 17 autres accusés cités dans l'acte d'accusation devraient se rendre d'ici vendredi, a indiqué le bureau dans un communiqué. M. Trump devait se rendre jeudi pour faire face à sa quatrième inculpation pénale de l'année. Deux semaines après les incendies meurtriers qui ont ravagé l'île de Maui, les autorités d'Hawaï ont annoncé mardi recenser encore 1100 personnes disparues selon une liste établie par le FBI qui réclame l'aide de leurs proches pour faciliter les recherches. Ces incendies, les plus meurtriers depuis un siècle aux États-Unis, ont fait au moins 115 morts selon le dernier bilan provisoire. Joe Biden va plaider pour muscler les capacités de financement du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale lors du prochain sommet du G20 en Inde, a fait savoir hier son conseiller à la sécurité nationale. Le point avec Lionel Gaïma.
La réunion du G20 se tient le 9 et le 10 septembre en Inde. Le président américain veut consacrer beaucoup de son énergie à la modernisation des banques de développement multilatérales, y compris la Banque mondiale et le FMI, a assuré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale. Si l'on tient compte de l'ampleur des besoins de financement et de prêts contraignants et non durables que fait la Chine au travers des nouvelles routes de la soie, nous devons faire en sorte qu'il existe des solutions avec des hautes exigences de qualité et de principe. Pour les...
Voilà pour le journal. Maintenant, la Minute Éco avec Alexandrine Oulognon.
Une pénurie de riz fait grimper les prix dans le monde entier. Les prix des exportations de riz du Vietnam, par exemple, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 15 ans. Le prix d'un sac de riz de 25 kg a augmenté d'un cinquième depuis juin, passant de l'équivalent de 14 $ à 18 $. Les grossistes n'ont pas reçu de nouveaux stocks depuis que l'Inde, de loin le plus grand exportateur de riz au monde, a déclaré le mois dernier qu'elle interdirait certaines expéditions de riz. Les pertes économiques dues aux incendies de forêt à Hawaï, estimées entre 4 et 6 milliards de dollars selon l'agence de notation Moody's, la division Risk Management Solutions de l'agence a toutefois indiqué dans un rapport que la plupart des dommages économiques devraient être couverts par les assurances à hauteur d'environ 75% ou plus. Le géant des services technologiques IBM vend les actifs de son activité météorologique à la société de capital investissement Francisco Partners pour un montant non divulgué. La vente comprend les actifs de The Weather Company destinés au grand public tels que weather.com et Storm Radar, ainsi que des offres destinées aux entreprises, notamment dans les secteurs des médias et de l'aviation. IBM conservera son activité de logiciel de développement durable.
À présent, c'est l'heure des sports et on reçoit Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Mondio d'athlétisme pour commencer. Faith Kipyegon sacré sur 1700 mètres à Budapest.
Oui, la Kenyane recordwoman du monde de la distance a remporté un troisième titre de championne du monde du 1500 mètres. La double championne olympique âgée de 29 ans a devancé l'Éthiopienne Diribé Weltegi et la Néerlandaise Sifan Hassan, intouchable Faith Kipyegon, a imprimé un rythme soutenu puis accéléré progressivement, personne ne pouvant la suivre dans le dernier tour. Pour couper la ligne en 3 minutes 54 secondes 87, la Kenyane qui s'est emparée cette année des records du monde du 1500 mètres, du 5000 mètres et du 1000 règne sur le demi-fond mondial. Elle va viser un doublé à Budapest, où elle s'aligne aussi sur 5000 mètres et fera de nouveau face à la néerlandaise Sifan Hassan.
Sofiane El Bakkali, de nouveau titré sur 3000 mètres, steeple.
Le champion olympique marocain s'est emparé d'un deuxième titre de champion du monde du 3000 mètres steeple mardi. En 8 minutes 3 secondes 53, Sofiane El Bakkali a dû s'employer dans le dernier tour pour devancer le nouveau recordman du monde de la discipline, l'Éthiopien Lamecha Girma, qui avait battu le record du monde de la spécialité à Paris début juin en 7 minutes 52 secondes 12. Ce dernier se pare de nouveau d'argent après les mondiaux de Doha, de Eugene et les Jeux Olympiques. Le Kenya Abraham Kibiwot a décroché le bronze après l'argent de Londres en 2017, le bronze de Doha en 2019 et l'or de Eugene ici en Oregon aux États-Unis en 2022. C'est la quatrième médaille mondiale consécutive pour le Marocain de 27 ans.
En football, il y a cette affaire de baiser forcé à une footballeuse qui se poursuit en Espagne.
Le premier ministre sortant, Pedro Sanchez, a qualifié de geste inacceptable le baiser forcé du président de la Fédération espagnole de football sur une joueuse après la victoire de l'équipe nationale féminine en finale de la Coupe du Monde. Il estime les excuses de Luis Rubiales insuffisantes, appelant le président de la Fédération à aller plus loin sans plus de précision. Dimanche, le président de la Fédération espagnole de football a embrassé sur la bouche l'attaquante Jenny Hermoso à Sydney après le sacre mondial des joueuses espagnoles. M. Rubiales a présenté ses excuses dans une vidéo publiée lundi sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il s'était agi d'un acte sans aucune mauvaise intention, sans aucune mauvaise foi.
Pour terminer, Yakuba, ici en NBA, James Harden, condamné à une amende.
La star de la NBA a été condamnée à payer une amende de 100 000 $. La Ligue de basket américaine a expliqué avoir infligé une amende à James Harden pour ses propos suggérant qu'il n'effectuerait pas les tâches prévues par son contrat s'il n'était pas transféré dans une autre équipe. Mi-août, James Harden a déclaré qu'il ne jouerait plus pour les Philadelphia Sixers tant que Daryl Murray restait président de la franchise, le qualifiant de menteur lors d'un événement promotionnel en Chine. Le joueur de 33 ans, All-Star à 10 reprises, a rejoint Philadelphie en février 2022 en provenance de Brooklyn.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours en votre compagnie, place au dossier du jour. Et on commence par le Niger. L'annonce d'une transition de 3 ans maximum faite par le président de la junte militaire, par le chef plutôt de la junte militaire au Niger, et rejetée par la CDAO, suscite des réactions dans le pays. Ce reportage vient de notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
Toujours pas convaincus du renversement de leur régime, les partisans de Mohamed Bazoum rejettent, tout comme la CEDEAO, l'idée d'une transition évoquée par le général Abdrahmane Tchiani, Adamou Manzo, militant du PNDS Tareya.
Accepter une transition, même des mois, ça veut dire accepter le coup d'État. Et nous le rejetons, nous rejetons le coup d'État et nous rejetons toute proposition de transition. Personne ne peut accepter cette proposition de 3 ans. Et la CEDEAO, en rejetant cette proposition, a vu juste et a été conforme aux principes fondamentaux de l'organisation. Ce que nous souhaitons, c'est le retour à l'ordre constitutionnel normal avec le président de la République, Mohamed Bazoum, libre de ses mouvements et rétabli dans ses fonctions de président de la République.
Militante d'une formation politique qui a soutenu Mohamed Bazoum, Madame Halima n'y voit pas d'inconvénient si telle est la volonté populaire.
Si le peuple nigérien lui fait confiance pour lui accorder 3 ans de transition ou au-delà, même nous qui sommes les politiciens, nous n'allons pas nous opposer. Parce que tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt suprême de notre nation.
Pour ces citoyens, l'étendue des chantiers mérite une période plus longue que ce que le général Abdrahmane Tchiani a annoncé.
C'est très peu. En tout cas, par rapport à ce que les gens-là ont fait, le PNDES et ses affidés ont fait, comme népotisme, détournement des données publiques, la corruption qui a gangréné le Niger, donc 3 ans, mois pour mois, c'est très peu pour redresser tout ça là et aller aux élections. Si on peut aller au-delà de 3 ans, moi je serai fier et je ne vois aucun inconvénient si c'est pour redresser le Niger.
Je crois que les 3 années de transition dont il a parlé, moi personnellement je trouve que c'est très peu. C'est très peu pour vraiment redresser, remettre le pays sur les rails comme nous le voulons. Je pense que 3 ans de transition c'est très peu.
Pour l'analyste Ibrahim Hamidou, il revient aux acteurs du dialogue convoqué par la junte de déterminer la durée de la transition.
Le délai doit normalement être en adéquation avec les tâches à exécuter. Aujourd'hui, on a parlé de questions de sécurité. On a parlé de questions de bonne gouvernance. On a parlé même de la question essentielle de souveraineté et d'indépendance. Est-ce que vous estimez qu'en 3 ans, on peut régler tout ça? Maintenant, c'est au peuple d'apprécier. Le président Tchiani, lui, il a dit qu'il souhaite que ça ne dépasse pas 3 ans. Mais si le peuple veut 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est obligé de se soumettre à cette volonté.
Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey, au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Situé à 100 kilomètres au nord de Dakar, la localité de Fass Boy est devenue un point de départ de migrants clandestins. Récemment, plusieurs pirogues ont pris départ depuis ces côtes, dont une embarcation partie le 10 juillet avec plus d'une 100 personnes à bord et qui a été retrouvée au large des îles du Cap Vert avec 38 personnes vivantes. À Fass Boy, la détresse est immense. De notre correspondant, de notre envoyé spécial sur place, c'est Dina Abagay.
Des pirogues à quai, des pêcheurs abattus, une communauté en détresse et des familles endeuillées. À Fass Boy, la tristesse est immense suite au décès d'une 100 de jeunes partis à la conquête de l'Europe à bord d'une pirogue. Ici, l'immigration clandestine a viré en catastrophe humanitaire et communautaire. Modou Boy et parents d'une des victimes.
Les jeunes vont pêcher en haute mer pendant des semaines, voire des mois, et au retour, ils ne peuvent même pas avoir 100 000 francs chacun. C'est frustrant pour un jeune car c'est avec cet argent de la pêche qu'ils entretiennent toute la famille. Cette situation handicapante les a poussés à faire un bloc pour partir ensemble vers l'Espagne, avec l'espoir d'une vie meilleure et des revenus conséquents pour aider leur famille et leurs vieux parents que nous sommes. Ils étaient juste partis pour gagner leur vie à la sueur de leur front. Malheureusement, pour la majorité d'entre eux, Dieu a décidé que leur chemin sur cette terre devait s'arrêter à jamais. Les plus chanceux ont survécu.
En plus de cette détresse, les familles des victimes mènent une bataille de chiffres avec l'État pour que leurs enfants ne tombent pas dans l'oubli. Pour les parents, il est important que chaque victime soit prise en compte, car chacun d'entre eux était un membre important d'une famille qui porte actuellement le deuil. Mouad Assamb est parent de victimes et adjoint au maire de Darou Khodous.
Dans le communiqué de l'État, nous avons vu 101 personnes, mais aussi nous avions pris les nouvelles à partir des parents des enfants qui étaient dans la pirogue. C'est eux qui assistaient au départ, ou bien c'est eux qui connaissaient le nombre exact qui était dans la pirogue. Ils nous avaient dit que la pirogue avait à son bord 147 personnes. Et jusqu'à présent, ils insistent sur les 147 personnes et disent que la pirogue avait à son bord 147 personnes. Seulement dans la pirogue, là, 90% sont, ou bien les 95% sont de la locale de Fasboy, mais il y a des gens une personne qui vient peut-être de Touba, d'autres qui viennent de Dakar, il y a même un Guinéen.
Malgré ce drame, les jeunes de la localité estiment que c'est un fait justifié car la mère ne nourrit plus son homme. Certains d'entre eux estiment que c'est une question de dignité. Mamadou Mbaye a perdu certains de ses amis dans le drame.
Souvent, quand un jeune rejoint l'Espagne via les pirogues et commence à travailler là-bas, il arrive à faire des investissements au bout de 2 ou 3 ans, à construire une maison, alors que ses amis qu'il a laissés ici peinent à survivre car la mère n'a plus de ressources. De là naît un sentiment d'impuissance qui est accentué par la pression sociale et le manque de solutions viables avec une mère qui ne nourrit plus son homme. Autant de choses qui poussent les jeunes à tenter l'aventure malgré les nombreux risques.
En quelques semaines, près d'un millier de jeunes a quitté la localité de Fasboy pour rejoindre l'Occident via la mer. D'après les sources locales, 500 jeunes sont arrivés en Espagne, 200 sont toujours bloqués au Maroc et les 150 qui ont déjà quitté la localité ont vu leur pirogue dériver et chavirer au large du Cap-Vert. Parmi ces 150 qui constituent le dernier départ connu, la majorité a péri. Seydina Bagay pour VOA Afrique à Fasboy.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Togo, plus de 3000 accidents de circulation ont occasionné 282 décès au premier semestre de cette année. Selon la police, 69% des décès sont imputés aux engins à deux roues. Les principales causes sont le non-respect des feux tricolores et l'absence du port de casque. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a décidé de sévir. Mais pour le moment, il procède à une sensibilisation des usagers des motos. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
Au feu tricolore en face du siège de la Fédération togolaise de football dans le quartier de Kégué à Lomé, les agents de la police s'activent dans la sensibilisation sur l'importance du port de casque, surtout des passagers des taxis-motos.
Le passager qui est en groupe quand une moto est impliquée dans l'accident, il n'est pas exempté. Et comme tel, les chocs que le pilote pourrait avoir, lui non plus n'est pas exempté. Donc, pourquoi ne pas porter le casque comme le pilote pour se protéger contre les chocs?
Adjo Mawena, prise en flagrant délit sur une moto, apprécie cette opération.
Il est en train de nous sensibiliser par rapport au port des casques. À part les conducteurs, il faut que nous aussi on puisse porter les casques pour nous-mêmes, notre propre bien et sauver nos vies. C'est une bonne initiative que le gouvernement togolais a prise et j'espère juste que nous aussi, les citoyens togolais, on puisse tous mettre en pratique.
Prosper, conducteur de taxi-moto, espère que la police tiendra parole et passera à la répression de ceux qui ne porteront pas le casque. Nous avons l'habitude de ce genre de choses de la part de la police. Elle fait des opérations coup de poing et après, plus rien. Par exemple, il y a de cela quelques années, ils avaient déjà évoqué ce problème de port de casque pour les passagers des taxis motos et les autres personnes qu'on remorque. Mais ils n'ont rien fait jusqu'à présent. J'espère que cette fois-ci, ils vont sanctionner les gens. Pour que le port de casque rentre dans les habitudes des Togolais et pour permettre à chacun d'en disposer, Foli Koutoukli, membre d'une association de sensibilisation sur la sécurité routière, fait des propositions.
Si on peut mettre en place des mesures pour qu'à l'achat d'une moto, au lieu d'un casque, qu'on puisse ajouter un autre casque, ça serait bien. Et aussi pour faciliter le quotidien à la population, pourquoi pas voir au niveau des vendeurs, des boutiques qui vendent des casques, essayer de réduire les taxes pour que les prix soient tellement réduits, pour que chacun puisse avoir son casque et circuler librement avec.
La police rappelle que cette phase de sensibilisation fera bientôt place à celle de la sanction des récalcitrants.
Nous faisons un effort pour les amener à comprendre le pourquoi le port de casque du passager est important. Nous avons un temps pour sensibiliser. Quand nous allons nous rendre compte que la majorité des usagers de la route sont sensibilisés, donc nous ferons face à ceux qui sont récalcitrants.
Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Au Bénin, le nombre de femmes qui troquent la promesse d'une carrière contre l'entrepreneuriat force l'administration. C'est le cas de Marlène Grasse Nitoumbé qui a délaissé les honneurs d'une vie de diplomate pour se lancer dans l'agriculture. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé, est allée à sa découverte. Voici son portrait.
L'avenir, c'est la terre, pourrait-on dire, devant la ténacité de la jeune diplomate béninoise Marlène Nitoumbé, devenue depuis plus de 5 ans une référence dans le monde agricole. Le déclic et la passion pour l'environnement et l'agroécologie sont nés dans une petite ferme au Québec lors d'une expérience de volontariat en environnement et développement communautaire.
Je suis très sensible à tout ce qui concerne l'environnement, la protection de la nature en elle-même. Donc, c'est ça qui est explique le fait que je me suis réorientée après mes études en diplomatie pour commencer à valoriser la terre. Tout s'imbrique de nos jours.
Derrière sa voix cristalline et hésitante se cache une volonté à toute épreuve. D'ailleurs, ce fut difficile pour la jeune femme d'imposer ses nouveaux rêves à ses proches.
Je dois avouer que ma migration de la diplomatie à l'agriculture n'a pas été facile. Il a fallu faire face à beaucoup d'obstacles, relever beaucoup de défis. C'était pas évident. Genre, personne ne comprenait pourquoi ce choix. Il a fallu convaincre par des mots aussi, mais surtout par de la détermination, y aller, agir, ne pas se mettre en train de parler, parce que je me suis rendu compte que, à force d'être en train de parler, d'attendre l'approbation, je n'y serais jamais allée.
Être aujourd'hui la patronne d'une ferme maraîchère afin de contribuer à la lutte contre la dégradation de l'environnement a demandé bien d'investissements, tant financiers, physique et intellectuelle.
C'est vrai que je m'étais essayé un peu à la permaculture, mais sous d'autres cieux, mais c'était pas du tout adapté au contexte béninois, donc il a fallu que je suive une autre formation pratique.
Pour le père de Malène, la nouvelle passion de sa fille a été difficile à avaler. Il se faisait déjà une idée de tout ce que sa fille pourrait accomplir avec les diplômes décrochés, mais au fil des défis relevés par cette dernière, Thierry Kinitoumbé ne pouvait qu'être fier de sa fille.
Ça n'a pas été facile, puisque lui-même n'avait pas prévu un tel sort, notre fille, hein, parce qu'elle a été brillante par les unes, qui a ses diplômes, et la situation a fait que, bon, elle a choisi d'être entrepreneur agricole. On a essayé de l'en dissuader, mais pour sa détermination, il a été obligé de le résigner.
Des jeunes femmes avec un background universitaire assez élogieux, mais qui ont préféré s'investir dans l'auto entrepreneuriat, le Bénin en regorge. Elles ont vite compris qu'elles peuvent contribuer au développement en créant de l'emploi pour leur père. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Alexandrine Prolonio avec vous pour Washington Forum. Les Gabonais seront aux urnes le 26 prochain pour les élections générales du Gabon. 13 candidats se réclamant de l'opposition se présenteront face au président sortant Ali Bongo Ondimba pour un scrutin à un seul tour. La principale coalition de l'opposition s'est ralliée derrière un unique candidat. Les ténors de l'opposition accusent le pouvoir d'avoir instauré au dernier moment un bulletin de vote unique pour la présidentielle et les législatives qui, selon eux, violent la liberté de choix de nombreux électeurs. Quels sont les enjeux autour des élections générales au Gabon? Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOA Afrique et sur voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui prend fin ici. Cette édition a été réalisée avec la contribution de toute la rédaction, à la présentation Nanit Salami, à la production Fatouma Alimati Kalala, avec l'assistance de Jonah Cunnings. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à très bientôt.